Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre notre exploration des thérapies émergentes des atteintes auditives. Alors, le cours d'aujourd'hui portera sur la chirurgie du génome, qu'on devrait plutôt appeler nanochirurgie, entre espoir et doute. Il sera suivi de la conférence que donnera Anna Magnusson du Karolinska Institute, de l'Institut du Karolinska, pardon, et qui portera sur le traitement des rythmes sonores dans le cerveau des mammifères. Nous allons voir successivement comment, en parallèle d'une vectorisation de l'ADN thérapeutique via les vecteurs viraux présentés lors du dernier cours, se développent des recherches qui ont pour but d'éviter l'utilisation des virus par le développement de vecteurs non viraux, appelés aussi véhicules. Alors, s'agissant d'une littérature scientifique qui peut prendre l'aspect d'un catalogue, je me limiterai aux notions essentielles. Dans une seconde partie du cours, nous nous intéresserons aux technologies d'édition du génome, c'est-à-dire de modification des séquences génomiques. On peut parler, comme je vous le disais, de nanochirurgie du génome, tout comme on édite un texte en enlevant les coquilles, pour nous les mutations, ou en ajoutant ça et là un mot ou une ponctuation. Trois systèmes d'édition du génome fondés sur des principes voisins, en tout cas pour les deux premiers, ont été développés. Le dernier né, le système CRISPR-Cas9, est une petite révolution en raison de sa versatilité et de son aisance de mise en œuvre. Et nous verrons la foison d'innovations développées pour en améliorer les performances et en élargir le champ d'application. Depuis 2013, début donc du développement de ce système CRISPR-Cas9, le nombre des publications de recherche sur cette technologie, popularisée sous le nom de ciseaux moléculaires, car de fait, elle introduit une coupure dans les deux brins d'ADN, croît de façon exponentielle et celui des dépôts de brevets croît même plus rapidement encore. Les recherches visent à améliorer la fonction ciseau, la rendre plus efficace au niveau des sites de coupure souhaités, les sites de coupure ciblés, et également de minimiser jusqu'à ne plus avoir de coupure hors du site ciblé. En d'autres termes, il s'agit d'éliminer ce qui, en anglais, est appelé les « off-targets ». En effet, si l'on veut en faire un outil thérapeutique, il faut impérativement faire en sorte que seul le gène ciblé soit inactivé et aucun autre, et même plus lorsque l'on a affaire à des animaux ou des individus hétérozygotes, faire en sorte que l'allèle qui est non muté et qui a de grandes chances de différer de l'allèle muté par une seule paire de bases, lui ne soit pas ciblé. Alors, les recherches visent aussi à transformer ce ciseau moléculaire en un autre type d'éditeur du génome. Ainsi, par exemple, en un outil technologique capable de changer in situ une base de l'ADN par une autre, avec toujours la même exigence de spécificité, changer une base qui correspond à une mutation responsable d'une maladie, par exemple, et ne pas changer cette même base à d'autres emplacements. La thérapie génique, nous l'entendons donc ici au sens large, comme englobant la thérapie des gènes eux-mêmes, la thérapie fondée sur les gènes et la thérapie fondée sur les acides nucléiques. Son succès dépend très largement du développement de vecteurs ou de véhicules qui peuvent efficacement acheminer le matériel génétique curatif aux cellules cibles et alors exprimer de façon un taux suffisant de ce système pour obtenir un effet optimal et avec une toxicité minimale ou mieux une absence totale de toxicité. Nous avons vu la semaine passée l'efficacité des vecteurs viraux, mais aussi leurs inconvénients, en particulier leur immunogénicité. Leur immunogénicité qui est telle que, je fais particulièrement appel en évoquant cette situation, à l'adénovirus 5, et aux virus associés à l'adénovirus, les AAV de type 2. Deux problèmes. Une large fraction de la population a déjà développé des réactions immunitaires contre ces vecteurs, qui ne pourront donc pas être utilisés en thérapie génique. Autre inconvénient, corollaire, si on peut les utiliser en thérapie génique chez les individus qui n'ont pas d'immunisation contre ces vecteurs, eh bien, une fois utilisés en thérapie génique, ils développeront une immunisation. Il n'y aura donc pas possibilité de réintroduire le même vecteur viral. Alors, en ce qui concerne les thérapies géniques qui n'utilisent pas les virus, les données dont on dispose proviennent essentiellement de l'ADN injecté par voie systémique, c'est-à-dire par voie générale. Trois types de séquences d'acides nucléiques sont utilisés. Les plasmides, de forme circulaire, qui se multiplient dans les bactéries, l'ADN nu et les oligonucléotides. Un panorama global dressé en 2017 donnait 2600 essais de thérapie génique, 65% faits aux États-Unis, 23% en Europe, 6,5% en Asie, de l'ordre de 1% en Australie et 0,2% en Afrique. Il se distribue en 65% d'essais cliniques de thérapie anticancéreuse et 11% pour des atteintes héréditaires monogéniques. Les autres correspondent à un ensemble d'autres atteintes et aussi à des démarches préventives comme la vaccination médiée donc par injection d'ADN. Les vecteurs ou véhicules de ces essais sont pour 20% des adénovirus, 18% des rétrovirus, 7,3% des lentivirus, 6,6% le virus de la vaccine, 3,5% le virus de l'herpès. Reste 17% d'ADN nu injecté ou d'ADN injecté sous forme de plasmide et également 4,4% dans lesquels l'ADN est injecté associé à des lipides, on parle de lipofection. Alors, pourquoi l'utilisation si fréquente des plasmides ? Parce que leur production est peu coûteuse, qu'ils sont stables, qu'ils ne s'intègrent pas dans l'ADN de la cellule hôte ou exceptionnellement à raison d'une intégration pour 100 000 cellules, évitant donc la mutagénèse insertionnelle et parce qu'ils ne se multiplient pas dans les cellules eucaryotes. De fait, des efforts importants ont été développés pour en faire des vecteurs de thérapie génique. Je citerai par exemple le fait que ces plasmides contiennent souvent des séquences bactériennes qui sont riches en séquences CpG non méthylées qui sont immunogènes. ces plasmides sont bien plus riches en ces séquences que ne le sont les génomes des cellules eucaryotes. Et donc, le système de réponse immunitaire à ces séquences a été étudié. On en connaît parfaitement les mécanismes. L'idée est donc de se débarrasser au plus possible de ces séquences d'origine bactérienne riches en séquences CpG non méthylées. Autre voie d'amélioration, supprimer les résistances aux antibiotiques qui servent à sélectionner les plasmides pour des raisons évidentes. Ces plasmides peuvent passer à l'intérieur du corps d'une bactérie peuvent venir coloniser des bactéries chez un individu qui deviendront alors résistantes aux antibiotiques. Plus on réduit la taille de ces plasmides, plus on facilite leur entrée dans les cellules. Et ceci a mobilisé beaucoup d'efforts qui ont abouti à la genèse de mini-vecteurs. Vous voyez ici les plasmides, les mini-plasmides, débarrassés de leur séquence de résistance aux antibiotiques, et puis nous allons voir les mini-vecteurs. Pour les obtenir donc une séquence minimale, on clone la séquence d'intérêt, ici en rouge, dans un plasmide parental, par l'action de diverses enzymes. On va aboutir à un plasmide intermédiaire, puis sous l'action d'une topoisomérase 4, à deux types de vecteurs, en quelque sorte, un mini-plasmide et un mini-vecteur. Et ce mini-vecteur, comme il est de toute petite taille, tant que sa taille n'excède pas 1200 paires de bases, on peut l'utiliser sous forme d'aérosol, par exemple, pour des thérapies pulmonaires. Alors, tout matériel, donc le voici ici, avec ses avantages décrits. Alors, le fait que donc c'est un tout petit vecteur, le fait que comme il est super enroulé négativement, il va entrer plus facilement dans les cellules. Point très important pour ces vecteurs dont la destinée est thérapeutique, il faut pouvoir obtenir une purification de très haut niveau. Et donc, c'est ce qui est obtenu avec ces mini-vecteurs qui sont facilement purifiables. Et donc, aujourd'hui, on ne connaît pas de désavantage à ces petits vecteurs. Tout matériel génétique nu fait face à des difficultés cependant pour entrer dans des cellules. C'est pourquoi on tente aujourd'hui à les fonctionnaliser en leur ajoutant des séquences d'adressage, un type particulier de cellules, les cellules que l'on veut traiter, ou en leur ajoutant des séquences qui leur permettront de gagner le noyau. Alors, on imagine bien la difficulté que rencontre l'ADN pour passer les différentes membranes des cellules. En conditions physiologiques, l'ADN se ionise et il forme un polyanion chargé négativement. Or, son objectif est qu'il entre en contact avec la membrane cellulaire qui, elle aussi, est chargée négativement. Comment s'y prendre ? Assez simplement, en entourant l'ADN dans une vésicule de lipides cationiques, donc chargée positivement. C'est ainsi que ne cessent de se développer des particules lipidiques. En variant leur composition lipidique, on peut favoriser l'attachement préférentiel à un type de membrane versus à un autre. Et ces vésicules lipidiques peuvent enfermer des ARN interférents, dont nous avons parlé la fois précédente, et ils peuvent également enfermer des micro-ARN, de l'ADN, comme vous le voyez ici, et des ARN messagers. À côté des lipides cationiques, sont développés depuis peu des lipides ionisables dont la charge électrique va dépendre de leur environnement, et surtout des lipidoïdes ou matériels de type lipidique. L'intérêt, former en l'absence de solvants et de catalyseurs leur utilisation pour transférer en particulier des petits ARN interférents, a reçu l'approbation de l'Agence américaine de régulation d'utilisation des drogues à visée thérapeutique, la FDA. Quantité de dérivés sont aujourd'hui générés puis fonctionnalisés, comme nous l'avons vu tout à l'heure. On peut même y introduire une nanoparticule magnétisée pour les diriger, par exemple, vers une tumeur. Alors, voici ici les lipides cationiques et les lipidoïdes schématisés. Alors, passons maintenant au trajet que doit parcourir une nanoparticule lipidique. Son intérêt, l'ADN étant enfermé dans la particule, il va échapper aux endonucléases qui se trouvent dans le sérum. Puis, la vésicule, donc, va être en contact, traverser d'abord la microvasculature ou les vaisseaux, puis entrer en contact avec la cellule cible. Là, la vésicule va être endocytée, elle va entrer dans un endosome et surtout essayer, l'objectif est qu'elle en sorte avant d'être captée par un lysosome. Or, les nanoparticules lipidiques et surtout les lipides ionisables, une fois arrivés, lorsqu'ils sont composés de lipides ionisables, une fois arrivés dans l'endosome, dont le pH est bas, vont se protoniser. Elles vont alors s'associer aux lipides anioniques de la membrane de l'endosome, ce qui va conduire à l'échappement du matériel génétique dans le cytoplasme. Il n'en demeure pas moins que l'entrée du matériel génétique dans la cellule et encore davantage dans le noyau via les vésicules lipidiques reste moins efficace que ne l'est l'entrée via les vecteurs viraux. Les problèmes de réaction immunitaire sont cependant bien moindres qu'avec les virus et donc la vectorisation des ADN thérapeutiques par des nanoparticules lipidiques est un champ de recherche aujourd'hui très actif. J'en viens à l'édition du génome et la technologie associée. Nous allons en effet aborder cette question sous un angle technologique. Je ferai cependant le moment venu une brève description du cheminement qui a conduit au développement du dernier de ces systèmes, le système CRISPR-Cas9. L'édition du génome a en réalité commencé en 1985. À l'époque, le nom d'édition n'a pas été donné à la démarche, mais qui est pourtant très semblable. Avec l'insertion de séquences nucléotidiques dans le locus qui code pour la bêta-globine humaine par recombinaison homologue. 2 ans plus tard, Capecchi montre, et ceci lui a valu le prix Nobel, que l'on peut ainsi créer une mutagénèse ciblée dans des cellules souches embryonnaires de souris dont naîtront des embryons porteurs de la mutation. Ainsi, soit un gène peut être totalement inactivé, on parle de knockout en anglais, soit une base peut être changée, introduisant la substitution d'un acide aminé par un autre, en anglais knocking. Cette méthode d'édition du génome fut extrêmement fructueuse, puisque pendant 20 ans, de 1987 à 2013 des quantités d'animaux mutants, presque exclusivement d'ailleurs des souris, modèles des maladies humaines, ont ainsi été générés. Son principal inconvénient est le fait qu'il faut environ une année pour obtenir ce type de modification du génome parce qu'elle va mettre en jeu des croisements successifs de souris sur plusieurs générations. Cette méthode d'édition du génome implique la recombinaison homologue, je vais y revenir. Elle a un autre inconvénient, c'est qu'elle est particulièrement difficile à mettre en œuvre dans les cellules humaines. C'est ce qui a entraîné le développement d'approches alternatives, non plus pour inactiver les gènes, mais pour en diminuer l'expression. C'est ainsi que les chercheurs ont eu recours aux oligonucléotides antisense ou aux petits ARN interférents. Ces approches, en règle générale, ne font que réduire l'expression des gènes, mais ne l'abolissent pas, et cette réduction n'est que transitoire. De surcroît, ces approches, qui utilisent donc des ADN complémentaires à la région ciblée, ont certains inconvénients, le fait que ces ADN ou ARN peuvent également s'apparier à des gènes hors le gène visé. C'est pour ces raisons que s'est développée une nouvelle vague de technologies qui a reçu différents noms, gene editing, genome engineering. Des outils incroyablement plus puissants sont aujourd'hui fournis aux expérimentateurs qui peuvent modifier le génome de façon extrêmement précise, introduire des mutations, nous le verrons, qui vont remplacer un nucléotide unique ou au contraire, insérer des séquences dans un gène donné pour l'inactiver ou même déléter, c'est-à-dire supprimer des régions chromosomiques entières. Ces systèmes sont au nombre de 3. Ils constituent en quelque sorte la boîte à outils de l'édition du génome. Brièvement, leurs avantages et leurs inconvénients. Comme je vous l'ai dit, leurs principes, les principes qui sous-tendent ces technologies sont voisins. Il s'agit, grâce à des séquences qui lient l'ADN, des séquences protéiques ou nucléotidiques, de cibler un point du génome, en un point du génome, une nucléase, c'est-à-dire une enzyme qui va couper les deux brins d'ADN. Les 3 systèmes sont les suivants. Le système nucléase à doigt de zinc, connu sous l'acronyme ZFN pour zinc finger nucleases. Le système de type TALEN, nucléase qui utilise des effecteurs de type activateur transcriptionnel. Le 3e système, le système le plus récemment découvert vers CRISPR, est ainsi nommé parce qu'il repose sur l'existence de courtes séquences palindromiques, c'est-à-dire des séquences qui se lisent de la même façon dans un sens et dans l'autre. Séquences palindromiques qui sont regroupées sur le génome et espacées. Elles sont regroupées, d'où le nom de CRISPR, Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Et CRISPR-Cas, Cas pour CRISPR Associated System, c'est là que se tient la nucléase du système. Dans les 3 cas, il y a coupure de l'ADN que vous voyez ici avec ces deux brins, les liaisons, ici, donc ce brin et l'autre brin, les liaisons hydrogènes qui établissent des ponts entre les bases, l'acide désoxyribonucléique de chaque côté et le phosphate lié à l'acide ribonucléique. Et vous voyez ici l'organisation des phosphates en bleu, des sucres et des bases en marron en interne. Alors, passons au premier système, donc le système à doigts de zinc. Alors, il faut savoir que ce système ZFN est en réalité une protéine qui n'existe pas dans la nature, c'est ce que l'on appelle une protéine fusion, on peut dire une protéine chimère. Ces nucléases de type ZFN sont en fait constituées de deux parties. Une partie d'origine bactérienne et l'autre d'origine eucaryotique. La partie eucaryotique est faite d'une série de domaines dits en doigt de zinc. Le doigt de zinc est une séquence de 20 à 30 acides amylés qui lie, comme son nom l'indique, un atome de zinc, soit une cystéine, soit une histidine. On le trouve dans les protéines de même nom qui sont souvent impliquées dans la régulation transcriptionnelle en se liant à l'ADN. Chaque doigt de zinc reconnaît 3 ou 4 bases sur l'ADN. C'est la raison pour laquelle ces doigts de zinc ont suscité un intérêt tout particulier comme possible outil d'édition de l'ADN. Des doigts de zinc ont été progressivement développés qui reconnaissent 3 à 4 bases de façon spécifique. En les assemblant, on obtient un ensemble de doigts de zinc qui va se lier à une séquence sur l'ADN de façon spécifique allant jusqu'à 18 bases. L'autre partie, donc ici, cet ensemble de doigts de zinc, voilà, ZFN. L'autre partie, c'est donc la partie procaryote qui était associée. L'autre partie, donc, a la fonction endonucléase, c'est-à-dire c'est elle qui va cliver l'ADN. Elle dérive d'une bactérie, d'une flavobactérie. Il s'agit du domaine de clivage de l'ADN d'une enzyme de restriction nommée FOC1. Ces nucléases à doigts de zinc sont conçues, comme vous le voyez ici, pour former une paire. Un des éléments de la paire se lie d'un côté du site que l'on veut cliver et l'autre élément se lie de l'autre côté. Chaque élément, en ce qui concerne le domaine FOC1, est un monomère et le clivage de l'ADN, indiqué ici par DSB, double strand break, c'est-à-dire le fait que les deux brins d'ADN vont être coupés, n'a lieu que si les monomères interagissent. Ceci exerce par conséquent une contrainte importante sur la reconnaissance, puisque pour qu'il y ait coupure, il faut que chacun des éléments de la paire soit correctement positionné pour que le domaine FOC1 puisse se dimériser. Cette coupure va ensuite être réparée par le système de réparation de la cellule. Voici ici l'ADN avec sa coupure, ses deux brins et la coupure double brin. Il existe 2 grands systèmes de réparation de l'ADN. Le premier ne fait intervenir aucune homologie et aucune homologie. Les extrémités libérées par la coupure vont être en quelque sorte raboutées, elles vont être jointes et liées les unes aux autres. C'est ce que l'on appelle donc non-homologous adjoining, abrégé en anglais en NHEJ. S'agissant d'une réparation bout à bout, lorsqu'elle s'effectue, c'est l'occasion pour du matériel génétique de s'insérer, matériel quelconque, ou bien, au contraire, les deux extrémités vont pouvoir être dégradées et ensuite de ça, rabootées. De sorte que, tantôt, il va y avoir des insertions à ce site, tantôt des délétions, ce qui introduit des mutations. Le deuxième système de réparation, ici à gauche, est un système très différent, qui lui est fondé sur l'homologie des séquences. Il met en jeu les systèmes de recombinaison homologue. Il est abrégé en HDR pour Homologous Directed Recombination. Il ne survient que durant certaines phases seulement du cycle cellulaire. Il n'est pas disponible tout le long du cycle cellulaire. Il survient durant la fin de la phase de réplication de l'ADN et la phase G2 qui précède la mitose. C'est ainsi que, après réplication donc de l'ADN, on a deux chromatides sœurs et l'une peut réparer l'autre. C'est ce système qui est utilisé depuis longtemps pour introduire des mutations fines dans un endroit quelconque du génome. Vous avez donc la coupure double brin sur l'ADN que l'on veut modifier. Si vous avez introduit dans la cellule ce fragment d'ADN très largement homologue au fragment ici en bleu, il va y avoir appariement de l'un des brins, ou plutôt de chacun des brins, de l'ADN d'origine avec chacun des brins de l'ADN homologue ou quasi-homologue. C'est une façon de supprimer, de réparer ad integrum le brin rompu ou bien d'introduire un tout petit nombre de mutations. Alors, donc, je vous le disais, c'est une façon d'introduire des mutations spécifiques, système donc totalement opposé à ce raboutage, si je puis dire, des extrémités qui, lui, va laisser entrer délétion et insertion. Alors, dans les cellules qui sont post-mitotiques, et on le reverra, c'est le cas des cellules de l'oreille, ce système de recombinaison homologue n'est pas présent. À l'inverse, dans toutes les cellules qui se divisent, il l'est. Alors, on peut aujourd'hui réparer, en particulier en utilisant même de l'ADN simple brin ou des oligonucléotides comme matrice de réparation. En dépit des avantages de l'édition du génome par des nucléases associées donc à ces protéines, dans cette protéine fusion où vous avez la nucléase et les doigts de zinc, cette approche a un certain nombre d'inconvénients potentiels. Assembler les doigts de zinc, les assembler en une séquence de très haute affinité, n'est pas trivial et ceci ne relève pas d'une routine, d'une technique de routine pour les non-spécialistes. Bien sûr, aujourd'hui, il existe des librairies de doigts de zinc et des compagnies qui vont choisir pour vous les doigts de zinc qui doivent être synthétisés pour avoir une spécificité de coupure maximale à un endroit donné. Mais le problème est aussi qu'en utilisant cette technique de coupure à doigts de zinc, on introduit essentiellement, comme pour toutes les autres formes, on va introduire, en particulier dans les cellules post-mitotiques, ce système donc, qui va conduire à l'insertion de délétions et à des insertions ou des élétions, abrégées en indel. De surcroît, on peut avoir aussi des reconnaissances dans des cibles non souhaitées, au niveau de sites non souhaités, non ciblés, des off-target. Ces dernières, nous l'avons vu, on peut les réduire grâce à l'assemblage des deux monomères, qui portent donc une exigence de la proximité de reconnaissance des séquences ciblées, comme je vous l'ai montré. Alors, je vais passer au deuxième type de système, le système de type Thalèn. On le doit à la découverte d'une classe de protéines que l'on dit effecteur de type activateur transcriptionnel, ce qui donne en anglais l'abréviation TAL. Et cette fois-ci, les domaines que l'on va utiliser viennent des pathogènes des plantes. C'est donc un domaine nouveau qui a été ainsi identifié. Domaine qui existe à l'état naturel, qui est composé de 33 à 35 acides aminés et qui comporte deux acides aminés adjacents qui vont conférer une spécificité de reconnaissance à l'une des quatre bases. Il y a donc dans ce système une véritable correspondance entre le domaine protéique utilisé et la base ciblée. C'est un véritable code nucléotidique qui existe. Pour ces TAL, on va les transformer en TALEN, c'est-à-dire on va associer le N marque la présence d'un domaine de type nucléase. C'est exactement le même schéma que précédemment. Reconnaissance par cette protéine de fusion qui comporte un ensemble de répétitions qui peuvent en réalité se lier jusqu'à 32 bases. Donc, c'est TALEN et association de ce domaine nucléase sous forme de monomère. Alors, les TALEN sont plus faciles à mettre en œuvre que les molécules que nous avons vues tout à l'heure à doigt de zinc. Un autre avantage potentiel des TALEN par rapport aux ZFN, c'est que, comme je vous le disais, on peut cibler de très longues séquences. Cependant, il faut faire attention. Ce n'est pas en allongeant les séquences que l'on gagne le plus souvent en spécificité. Autre désavantage des TALEN, les TALEN sont en réalité codés par des fragments d'ADN de plusieurs kilobases, contrairement aux ZFN, qui sont codés simplement sous la forme de séquences d'un kilobase, et par conséquent, ils vont être plus difficilement insérables dans les vecteurs de thérapie que l'on préfère aujourd'hui, les AAV. J'en viens au dernier système, le système CRISPR-Cas9. Ce n'est pas un système de protéines de fusion. C'est un système naturel qui fait intervenir de courts ARN et bien sûr encore une endonucléase, l'endonucléase Cas. C'est donc un système ribonucléoprotéique. C'est le système qui a été découvert à travers les efforts faits pour comprendre l'immunité adaptative de la bactérie. Je m'explique. La bactérie, lorsqu'elle est infectée une première fois par un de ces virus, un bactériophage, va utiliser un système pour se défendre contre une réinfection par ce même bactériophage. Ce système est d'un type entièrement nouveau. Les bactéries passent leur temps à collecter des séquences venant de leur virus sous la forme de proto-espaceurs qui vont se situer à côté de séquences répétées, les fameuses séquences palindromiques. Elles les incorporent dans leur génome et elles vont les exprimer sous forme de petits ARN. Un bactériophage, donc le virus de la bactérie, du même type qu'un précédent qui a injecté son ADN dans une bactérie donnée, entre en contact avec la bactérie. Là, il injecte son ADN. L'ARN codé par l'espaceur correspondant, l'ARN codé, j'ai bien dit, est synthétisé. Il va s'hybrider avec l'ADN du bactériophage et il va recruter l'endonucléase Cas9 pour le dégrader. Il existe plusieurs systèmes CRISPR-Cas. Le type 2 est de loin le plus simple. En réalité, il requiert deux ARN, un ARN qui va reconnaître les séquences spécifiques sur l'ADN, les séquences interespaces, et un autre qui va transactiver la protéine Cas. Durant l'année 2012, alors ici vous voyez le cheminement des différentes étapes. Comme toutes les découvertes en biologie, elles ne partent jamais de rien, elles s'inscrivent dans un continuum d'observation, voire de découverte. Alors, c'est d'abord en 1987 la découverte de ces séquences répétées dans le génome des Escherichia coli. Puis l'on doit à plusieurs groupes, dont le groupe de Christine Pourcel, qui travaillait à l'Institut Pasteur, d'avoir compris que il s'agissait vraisemblablement que ces séquences répétées étaient sans doute issues des bactériophages et correspondaient sans doute à d'anciennes attaques par ces virus. Puis a été mis en évidence le fait qu'il s'agit d'un système de défense immunitaire bactérien et 2012 marque un véritable tournant. Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna vont proposer que ce système de défense immunitaire des bactéries puisse être utilisé pour éditer le génome de n'importe quel type de cellules vivantes, qu'il s'agisse des végétaux ou des animaux, ou d'autres eucaryotes. Alors, ensuite de ça, l'année suivante, le système, son efficacité est démontrée dans des cellules de mammifères. L'année suivante seulement, naît une première souris dont le génome est modifié par cette technique. Puis, on met en évidence le fait que ce système peut fonctionner sur des embryons humains. Il s'agit d'embryons à un stade très précoce, non viables. Alors, comment est-il fait, ce système? Eh bien, il comprend donc des petits ARN que vous voyez ici, schématisés là, et que vous voyez ici, qui sont appelés guides. L'astuce développée par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna a consisté à transformer le système bactérien qui était composé de deux petits ARN dont les reconnaissances étaient différentes mais essentielles au système, à les fusionner en un ARN de courte taille unique. Donc c'est un ARN chimérique. Et elle démontre que dans la bactérie, on obtient bien la coupure au site souhaité en utilisant ces guides ARN qui sont complémentaires des séquences ciblées. Ces guides ARN ils sont sur l'ADN, les séquences correspondantes sont associées à une séquence que l'on dit motif adjacent au proto-espace, abrégé en anglais en PAM, que vous voyez ici, en orange. Cette séquence, elle est variable d'une bactérie à l'autre, et donc c'est une séquence ici que vous voyez de 3 nucléotides, mais elle est parfois plus longue, ajoutant une spécificité de reconnaissance. La séquence d'événements qui va conduire à l'action de l'endonucléase Cas9 est la suivante. Il y a d'abord une interaction qui se fait entre le guide ARN et Cas9. Les séquences complémentaires de l'espaceur sur l'ADN vont alors être libérées. Elles sont exposées. Le ciblage de l'ADN commence alors. Cas9 reconnaît la séquence PAM, comme vous le voyez ici, et il s'ensuit le fait qu'à ce niveau-là, les deux brins de l'ADN ciblés s'écartent légèrement, comme vous le voyez ici, la séquence un brin d'ADN ici en vert, qui s'écarte de son brin complémentaire. Donc, c'est à ce moment-là, la partie du guide donc, qui est complémentaire du proto-espaceur va s'apparier avec cette séquence. Ceci active la Cas9 qui va cliver l'ADN. Et on a une coupure double brin en tout point identique à celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. La coupure est en règle générale située à 3 bases du motif PAM à l'intérieur du proto-espaceur. À l'inverse des TALEN et des ZFN, qui nécessitent pour chaque expérience une nouvelle cible qui doit être resynthétisée, c'est-à-dire une nouvelle cible qui va être synthétisée sous forme d'ADN avec donc des séquences de reconnaissance de l'ADN bien particulières. Ici, le système CRISPR-Cas9 est extrêmement versatile. Là, l'enzyme Cas9 est toujours la même, quelle que soit l'expérience. Il suffit de modifier les guides ARN qui font environ une vingtaine de bases. Or, ceux-ci sont synthétisés très aisément par des compagnies. C'est cet avantage absolument majeur par rapport aux deux autres systèmes que présente donc le système CRISPR-Cas qui explique pour son utilisation très large. Alors, dans un premier temps, ont été utilisées la Cas9 codée par de l'ADN et les guides étaient initialement synthétisés à partir de l'ADN en utilisant un promoteur de différentes ARN polymérases. Inconvénient du système, s'il en a un, c'est le fait que la Cas9, en tout cas la première qui a été utilisée, est codée par un ADN de 4,2 kilobases, auquel il faut ajouter les promoteurs pour les guides, la séquence de polyadénylation et les guides eux-mêmes qui font chacun une centaine de nucléotides. Donc le système a évolué. Comment a-t-il évolué ? D'abord chercher avec la diversité biologique, c'est simple, des Cas9 de plus petite taille dans d'autres bactéries. Et de fait, il en a été trouvé dont la taille ne fait que 3 kilobases. Et puis, ensuite de ça, comment améliorer le système ? C'est principalement tenter d'en accroître la spécificité. Et là, à nouveau, on peut jouer sur l'ARN et sur la Cas9, l'endonucléase. Alors, il a été recherché une Cas9 qui introduit non pas une coupure double brin, mais une coupure simple brin. Alors, à ce moment-là, on peut transformer le système en un système en deux morceaux, une paire, comme nous avons vu précédemment, puisqu'il va falloir avoir une coupure sur un brin d'ADN et une coupure sur l'autre brin d'ADN en regard. Le système a également évolué en utilisant le domaine que nous avons vu précédemment, le domaine FOC1. On a fait évoluer la nucléase Cas9 de sorte qu'elle reconnaît toujours les guides ARN, mais n'a plus d'activité nucléase. Mais on l'a couplée au domaine que nous avons vu précédemment dans les systèmes Thalène et dans les systèmes ZFN, le domaine FOC1. Et là, à nouveau, exigence d'appariement de part et d'autre pour obtenir une coupure double brin. Alors, on peut dire que cette technique, je vais passer rapidement, mais a véritablement révolutionné la biologie. Pourquoi ? Parce qu'elle a de multiples utilisations, rapide possibilité de modifier tout génome de n'importe quel organisme, puisqu'il n'y a plus l'exigence d'avoir une lignée embryonnaire stable, pluripotente au départ. Modifier parce que l'on peut, par exemple, j'en donnerai juste un exemple, on est capable de travailler ainsi de bonne façon avec les cellules souches pluripotentes, dites induced pluripotential stem cells, qui dérivent des patients. Elles portent le plus souvent une mutation. Si l'on compare les profils d'expression pour une même mutation à partir de cellules pluripotentes, d'iPS cells, obtenues de divers patients, les profils d'expression sont relativement divers. Ils le font des fois davantage entre eux qu'avec. Ils sont davantage différents entre eux qu'avec les iPSL provenant d'un patient qui ne présente pas l'atteinte que présentent les autres. En conséquence, la bonne façon de procéder avec les iPSL, quelle est-elle ? Elle est de comparer le profil d'expression de ces iPSL qui peuvent être différenciés in vitro dans un grand nombre de types cellulaires, y inclut celui qui vous intéresse. La bonne façon de procéder est de comparer les profils d'expression des gènes, des iPSL, différenciés ou non, selon ce qui vous intéresse, d'un même patient et avec le profil d'expression de ces iPSL après réparation de la mutation. Il y aurait ici des quantités d'exemples qui pourraient être donnés. Alors, je vais passer maintenant à la thérapie génique et à la thérapie génique dans l'oreille. Auparavant, j'aimerais exposer une tentative de thérapie génique utilisant le système CRISPR-Cas9 qui consiste à faire évoluer la technique d'édition du génome dont je vous ai parlé, technique qui ne fait que de créer des cassures double brin en quelque sorte. C'est le travail publié en novembre 2017 par le groupe de David Liu de Harvard. La plupart des mutations chez l'homme sont des mutations qui sont dues à la désamination des cytosines en thymine. Ces mutations ponctuelles représentent environ 50% des mutations. Par conséquent, ce que l'on souhaiterait, c'est avoir le moyen de réverser cette thymine en cytosine. Alors, un système a été développé par ce groupe qui met à profit le système CRISPR-Cas9 que nous venons de voir. Il passe par le produit suivant. Si une adénosine est désaminée, elle va se transformer en une inosine. Une inosine qui, lorsque il va y avoir réplication de ce brin qui porte l'inosine, va être lu comme une guanine et va donc intégrer une cytosine à la place. Alors, le système consiste en le montage suivant. On va utiliser l'enzyme CRISPR-Cas que nous avons vu à maintes reprises, mais non dans sa forme normale, mais avec la perte de son activité catalytique, de son activité de coupure double brin. Mais on va garder son aptitude à reconnaître les guides ARN. Cette enzyme est toujours dirigée vers la séquence cible de l'ARN grâce au guide. Vous voyez ici en vert. Il s'ensuit, après l'interaction avec Cas, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire la séparation des doubles brins d'ADN sur une courte séquence qui correspond au guide. Et là, parce que la protéine Cas a été couplée à un petit domaine protéique, c'est à nouveau une protéine fusion, un petit domaine protéique qui a une fonction désaminase, eh bien, on va obtenir la transformation de cette adénine en inosine. C'est ce que vous voyez ici, donc sur le brin complémentaire. Initialement, on avait GC, et maintenant, on a TI. Puis, intervient un mécanisme de réparation que l'on dit mécanisme de réparation des mésappariements qui va faire en sorte que lu comme donc on a ici la guanine qui va s'apparier avec une cytosine. Ce système est appelé édition de base, en anglais abrégé par BE, et portant sur l'adénosine, il est appelé ABE. Donc la version que je viens de vous présenter est assez simplifiée, mais il faut savoir que l'on peut finalement, dans ces enzymes, l'enzyme Cas comme beaucoup d'autres, qui possèdent différents domaines, on peut les séparer les uns des autres, garder un type de fonction, perdre une autre fonction, ajouter un domaine qui a une nouvelle fonction. Alors, pour finir, retournons à notre objectif, le traitement de la surdité. Et c'est à nouveau par, bien sûr, l'objet du cours aujourd'hui, les techniques d'édition de l'ADN. Ici est utilisée la technologie CRISPR-Cas9 pour traiter un modèle de souris d'une surdité dominante chez l'homme. Et c'est à nouveau la même équipe de Harvard qui publie ce travail, David Liu. Alors, ce qu'il va changer, qui a déjà été testé, mais il va établir en fait un véritable gain associé à cette transformation, c'est de cesser de faire coder la Cas9 par l'ADN, mais d'utiliser la protéine en tant que telle. Donc on va se retrouver avec le système ribonucléoprotéines, ribo, parce que, bien sûr, sont associés les guides ARN. Alors, ceci est assez astucieux. Pourquoi ? Nous allons le voir en termes de spécificité, mais le fait d'utiliser non pas un ADN qui va continuer de synthétiser la protéine CRISPR-Cas, qui va rester là dans la cellule, s'en donnant à cœur joie pour aller chercher maintenant des cibles qui sont des cibles qui ne sont pas 100% homologues, qui sont des cibles qu'on ne voudrait pas toucher. Donc l'idée est que si on utilise non pas de l'ADN, mais la protéine elle-même, elle a une durée de vie courte. Par conséquent, elle va d'abord cibler, elle va d'abord être active là où les guides ont le plus d'affinité, c'est-à-dire là où on veut couper l'ADN, puis elle va disparaître, limitant ce que l'on appelle donc les atteintes des hors-cibles ou off-target. Je vous rappelle donc que nous sommes dans des cellules post-mitotiques et donc que n'existe que le système d'assemblage, après la coupure double brin, d'assemblage des morceaux d'ADN, que n'existe pas dans cette situation physiologique de la cellule la recombinaison homologue. Donc ce qui va être utile, va être recherché, c'est la chose suivante. Il va être recherché si l'on peut inactiver un allèle qui est responsable d'une atteinte dominante, c'est-à-dire que l'autre allèle est normal, il est responsable d'une atteinte parce qu'il code une protéine qui va être exprimée et qui non seulement va être exprimée, mais va pouvoir contrecarrer l'activité de la protéine normale synthétisée par l'autre brin d'ADN, par l'autre allèle dans les cellules. Alors, l'expérience est la suivante. Elle va consister dans un premier temps à trouver le guide optimal pour essayer d'introduire, d'inactiver cet allèle qui porte cette mutation en position 1235, l'inactiver, c'est-à-dire obtenir une coupure double brin qui entraînera insertion et délétion. Vont être testés un certain nombre de guides ARN ici qui diffèrent par leur relation à la séquence PAM dont je vous parlais. Et en réalité, comme elle est NGG, il y en a plusieurs dans la région. Et donc, vont être testées ces quatre courtes séquences et on va regarder si l'on peut obtenir par transfection l'inactivation de l'allèle mutant sans toucher à l'allèle sauvage. Ce guide ARN va être transféré dans des cellules fibroblastiques, soit sauvages, ici en rouge, soit mutantes, pour la mutation que je n'ai pas encore présentée, qui s'appelle Beethoven. Cette mutation, elle est responsable à l'état hétérozygote Beethoven sur un allèle et l'autre allèle sauvage, ou Beethoven-Beethoven, d'une perte de l'audition. Cette même mutation, chose curieuse, a été retrouvée chez l'homme, entraînant également une perte de l'audition. Donc, on va transférer chacun de ces guides. Cette mutation se situe dans un gène qui code pour un des composants sans doute majeurs du canal de mécanotransduction des cellules sensorielles. Cette sous-unité s'appelle TMC1. Alors, ici, le transfert du guide TMC1 MUT1 que vous voyez ici, puis MUT2, MUT3, etc. On voit en ordonnée le pourcentage des insertions délétions observées. On voit que ce sont les guides TMC1 MUT3 qui conduisent un minimum d'insertions au niveau des fibroblastes sauvages et un maximum au niveau des fibroblastes mutés. C'est donc lui avec lequel l'étude se poursuit. L'idée est donc de transférer protéines et guides en même temps. Pour le faire de façon efficace, il va falloir transférer ce complexe enveloppés dans une vésicule lipidique. 17 lipides sont testés et celui qui s'avère le plus efficace est la lipofectamine 200. Alors la question majeure de ce type d'approche, c'est qu'en est-il des ciblages hors cible ? Ces fameux ciblages qui vont inactiver des gènes qui peuvent être des gènes absolument essentiels, c'est-à-dire qui vont mutagéniser les gènes. La séquence des génomes permet d'identifier les séquences qui sont proches de la séquence ciblée. Ici, une dizaine sont identifiées. Et dans l'expérience que nous venons de voir, c'est-à-dire qui consiste à une transfection de cellules, donc cette fois-ci, il s'agit non pas seulement des cellules sauvages, on va injecter la CAS, soit codée par un plasmide, soit sous forme de protéines, chaque fois avec les guides ARN. Que voit-on ? En ce qui concerne les insertions délétion au niveau de la cible, le résultat est un peu meilleur, mais pas très différent, que la Cas9 soit codée par l'ADN ou délivrée sous forme de protéines. En revanche, vous le voyez ici, pour chacune des séquences apparentées, l'effet des coupures et des insertions ou des lésions en ces sites est totalement minimisé si c'est non pas le plasmide qui code pour la Cas9 qui est inséré, mais la protéine elle-même. Donc là, il y a bien une avancée spectaculaire, le fait que la protéine Cas5, conduit à une spécificité de coupure bien plus grande lorsqu'elle est utilisée telle quelle que lorsqu'elle est codée par l'ADN. Alors, nous allons maintenant regarder les effets de ces injections. Les effets de ces injections vont être regardés après transfert par cochléostomie de la protéine Cas9 avec les guides sélectionnés. Transfert dans un animal qui a la mutation que nous avons vue Beethoven sur un allèle TMC1, mais une délétion sur l'autre. Et une double délétion sur une protéine de la même famille que TMC1 et qui agit de façon semblable pour former une des sous-unités du canal de mécanotransduction. On enregistre les courants de mécanotransduction, ici donc, dans les deux cas, ici, chez cet animal mutant. Que voit-on ? Eh bien, sans injection, voici le courant de mécanotransduction. Lorsque l'on a injecté l'enzyme couplée, donc Cas9, couplée à ses guides ARN, on voit une réduction du courant. Réduction, puisque maintenant, on peut en première approximation penser que l'on a inactivé l'allèle porteur de mutation. C'est une réduction. Ce n'est pas une suppression complète du courant, ce qui indique que seuls certains allèles ont muté, ont fait l'objet de l'édition. À côté, une approche quantitative de ce que je viens de vous montrer, qui établit le fait que si l'on regarde à jour 15-16 ou à jour 20-23, on a les mêmes effets. Quel effet produit cette édition, en première approximation, cette édition du génome sur la survie des cellules sensorielles auditives ? Ici, les cellules sensorielles auditives, la cochlée de l'animal mutant que nous avons vu auparavant, donc qui n'avait gardé que l'allèle muté de TMC1. Les cellules sensorielles sont révélées par un immunomarquage utilisant des anticorps dirigés contre l'un de leurs composants, la myosine CETA. Vous voyez, en particulier à la base de la cochlée, un grand nombre de trous qui indiquent que, en fait, il y a disparition de certaines cellules chez ce mutant qui n'est pas injecté. Lorsque ce mutant est maintenant injecté, on voit réapparaître, en quelque sorte, ou plutôt que la survie de certaines cellules est prolongée. Et là, ici, il s'agit simplement d'un contrôle. Alors, grâce, mesuré ainsi tout le long de la cochlée, on peut voir que dans ces conditions de transfert et d'édition potentielle du génome, c'est surtout les cellules ciliées internes qui sont corrigées et les cellules ciliées internes de la base de la cochlée. Passons au plan physiologique. On va mesurer le seuil des ABR envers les témoins sauvages, en rouge les animaux mutants non injectés, en bleu les animaux injectés. On voit que le seuil des animaux mutants injectés s'abaisse. Il y a donc une certaine correction. La correction est encore bien plus nette au niveau des ondes ABR et en particulier au niveau de l'onde 1. En rouge, le tracé obtenu chez un animal mutant, en bleu, chez un animal mutant qui a reçu donc la protéine Cas9 associée à ses guides et insérée dans une vésicule lipidique. À droite, la quantification de l'amplitude de l'on 1, dont on voit qu'elle est très nettement augmentée. Autre test, c'est le test de sursaut en réponse à une stimulation acoustique, pour lequel on voit à nouveau, toujours avec le même code couleur, les mutants non injectés en rouge. L'amplitude de la réponse est très faible. Lorsque ont été injectés les guides associés à l'enzyme l'endonucléase Cas9, on voit au contraire que l'amplitude du sursaut est bien plus élevée. Alors, il a été possible de montrer, non pas dans le même système, mais dans un autre système, que ce type d'édition du génome, jusqu'à présent on parle d'édition sans l'avoir montré, mais il y a correction au niveau de la survie, correction au niveau électrophysiologique, peut être obtenue lorsque guide et enzyme Cas9 sont injectés dans les mêmes conditions, mais à un stade adulte. Donc tous ces résultats invitent à penser que l'on a bien eu affaire à une édition du génome. Il faut en apporter la preuve. Ici, vous voyez quatre organes sensoriels, auditifs, les organes de Corti, d'animaux mutants hétérozygotes pour la mutation Beethoven. On va passer au séquençage génomique. Alors, donc, on va passer au séquençage génomique. Et que va-t-on voir ? On va pouvoir repérer environ 11 000 séquences qui ont été éditées. Mais on ne va pouvoir attribuer l'édition à l'allèle sauvage versus mutant, qui ne diffère que par une base, que dans la moitié des cas. Or, on s'aperçoit que parmi les séquences identifiées, il y en a 15 fois plus qui consiste en une édition de l'allèle muté qui devient inactivé que de l'allèle sauvage, tout pareillement d'ailleurs inactivé. Alors, si on s'intéresse cette fois-ci non plus à l'allèle sauvage, mais à des séquences hors de la cible, plus différentes. Là, excellente surprise à nouveau, il n'y a pas une autre séquence qui soit éditée. Donc, ce résultat est très encourageant, d'une part, parce qu'on obtient une très bonne spécificité des coupures, et d'autre part, qu'en choisissant bien ces guides, la proportion des allèles mutés qui vont subir la coupure double brin versus l'allèle non muté est très différente. Donc, au total, on est dans un système quelque part idéal. Il est sans virus, il est sans ADN. Le résultat est obtenu en une seule étape. Alors, il reste un point. L'efficacité, vous l'avez vu par la baisse du seuil auditif, reste faible. Il faut gagner en efficacité sans perdre en spécificité. Alors, on est dans un schéma de dominance. Il y a donc un allèle à réparer, plus on est dans un schéma de dominance négative, c'est-à-dire qu'il suffit d'inactiver en délétant n'importe quel morceau autour du, enfin, n'importe quelle séquence nucléotidique autour de la coupure double brin ou en insérant n'importe quel morceau d'ADN pour obtenir l'inactivation de l'allèle muté. Les mutations dominantes, les auteurs disent qu'elles représentent 20% des formes de surdité. Je pense que ce chiffre est totalement sous-estimé. En revanche, quelle est la proportion de ces mutations qui ont un effet dominant négatif ? Ceci reste à examiner, puisqu'une mutation dominante peut aussi être une mutation par haploinsufficience. Alors, je vais terminer ici en vous remerciant de votre attention. Et nous faisons maintenant une pause de quelques minutes.